petit mot sur le fil de mes recherches. J'ai évidemment été sensibilisé par mes parents. Ma mère était orpheline de la grippe espagnole. Ses deux parents sont décédés. Donc, elle a été prise en charge par les sœurs. À 10 ans, elle est devenue domestique dans la famille des Beaubien, la famille Beaubien, une grande famille canadienne française d'Outremont. À 14 ans, elle était couturière. Elle nous a imaginé, par rapport à nos enfants, ce que, hein, c'est tellement c'était différent à l'époque. Mon père était peintre en bâtiment. Il a été 35 ans secrétaire trésorier de son syndicat, l'Union internationale des peintres et tapissiers d'Amérique. Puis je peux vous dire, j'ai appris à compter les sous parce que le secrétaire trésorier recevait à chaque assemblée mensuelle du syndicat les cotisations parce que les ouvriers cotisaient chaque mois parce qu'il y avait une assurance qui était reliée à leur adhésion syndicale. J'ai connu très jeune les quartiers ouvriers, je suis né à Verdun, et je me suis intéressé à leur histoire. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Léandre Bergeron, qui a écrit l'Histoire du Québec, et qui avait fondé les éditions québécoises. Donc j'ai contribué à une première monographie sur le quartier ouvrier de Saint-Henri. Et ensuite, j'ai coordonné celui 72, 73, sur la Petite-Bourgogne, où j'ai un appartement actuellement, c'est là où j'étais quand je suis à Montréal. D'ailleurs, dans l'ancienne cour de la Steel Co., la Steel Company, américaine. Bon. Après ça, j'ai travaillé à la demande du Conseil central des syndicats de Beauharnois-Valleyfield sur l'histoire, le 100 ans de l'histoire de Valleyfield, bien sûr des grèves célèbres, des luttes importantes. Et je collaborais aussi au supplément que la presse publiait. Donc, Gérald Godin m'a poussé à ramasser mes chroniques et à faire une brochure sur le premier livre. C'est comme ça que progressivement, j'ai creusé. Et je suis arrivé à un moment donné, au fil de mes recherches, à demander à mon vieil ami Raymond Boyer, qui m'a fait rencontrer Stanley Brierson, qui avait été secrétaire du Parti communiste et qui était professeur à l'UQAM, Madeleine Parent, bien sûr, et Ken Frawley, son conjoint, puisqu'ils sont concernés par les grèves de Beauharnois-Valleyfield. Et finalement, les gens parlaient de Saint-Martin, mais ne l'avaient pas vraiment connu. Donc, finalement, j'ai contacté Fernand Saint-Martin, qui enseignait encore à l'époque à l'UQAM. Elle est donc la petite fille d'Albert Saint-Martin. Fernande est plus connue comme historienne de l'art, elle a fait beaucoup de publications. Elle est en fait la fille de Théode. Théode, c'est le seul fils qui a survécu d'Albert Saint-Martin. C'était un médecin. Mais Théode avait rompu avec son père assez tôt. Le père était évidemment athée et Théode était très catholique. Et donc, Albert avait avait payé les études de son fils en médecine à l'Université McGill parce que ce n'était pas catholique. Et il a choisi l'Université de Montréal, donc il a payé ses propres études. Mais ça, Fernand n'en savait rien parce qu'on lui a caché l'existence de son grand-père. Elle l'a appris le jour où Saint-Martin est décédé. Le téléphone sonne, elle a 20 ans, elle est en train de souper chez son père, qui à ce moment-là a 59 ans, et on lui apprend l'existence de ce grand-père. Quand j'ai rencontré Fernande en 76 pour l'entrevue, elle était accompagnée de son cousin, fils de Berthe, donc la seule fille aussi de Saint-Martin qui a survécu. Je racontais tout à l'heure à Patrick qu'ils ont eu 6 enfants, mais il y en a seulement, pour montrer la mortalité infantile à Montréal à ce moment-là, seulement 2 qui ont survécu. De quelques jours à 1 an ou 2, les enfants mouraient de maladies infantiles. On n'avait pas non plus les vaccins qu'on a maintenant, évidemment, pour les enfants. J'ai rencontré de nouveau Jean Turgeon, le cousin de Fernand, par la suite, en 78, mais là, il était accompagné, c'est un jésuite, il faut que je dise ça, il habitait ici, là, à la résidence des jésuites, Et il est accompagné de réfugiés politiques des pays de l'Est pour essayer de me convaincre de ne pas écrire sur Albert Saint-Martin parce que c'était de la propagande. Alors, juste pour vous raconter cette histoire. Parlons maintenant d'Albert Saint-Martin, son itinéraire. Moi, je vois quatre phases. D'abord, c'est un témoin du vécu de la classe ouvrière, comme sténographe. Il entend les situations de misère, les poursuites, et ça l'amène à travers les chemins du travail à mettre sur pied des clubs ouvriers et partis ouvriers. Ensuite, ça devient un ardent défenseur du socialisme. Ça, c'est plus la période de 1907 à 1919. Ensuite, il prend parti, il devient un communiste libertaire, il défend dans Tom Anti la révolution soviétique. Ça dure 5 ans, 1920-1925. Il n'a pas réussi, je racontais tout à l'heure, ses démarches n'ont pas abouti. Par la suite, il se replie sur l'université ouvrière qu'il fondait en 1925 et qu'il va soutenir jusqu'au moment où il va devenir un bouc émissaire de la répression cléricale et fasciste, littéralement. À partir de 1934, il est brisé, littéralement, et il va se replier tranquillement. Donc, commençons par le témoin du vécu de la classe ouvrière. Il est né à Hochelaga. Il apprend la sténographie française-anglaise et il va travailler à la Cour supérieure de Montréal. À la fois à la Cour supérieure de Montréal, mais aussi il va être itinérant. Il va accompagner des juges qui se déplacent, par exemple, à Mont-Laurier. D'où l'idée pour lui de fonder la Canado plus tard, la ferme collective dans ce coin-là. Il voit beaucoup la misère humaine produite par l'industrialisation. Toute la fin, la dernière partie de ce siècle-là, c'est vraiment une période où les grandes entreprises se développent dans tous les domaines, à Montréal. Et ça amène évidemment beaucoup de gens des milieux ruraux à venir travailler à Montréal. C'est comme ça que ma famille qui venait de la région de Saint-Hyacinthe sur une ferme, 10 enfants, on ne peut pas rester à la ferme, donc ils sont venus à Montréal. Il s'intéresse à, je voudrais vous lire un tout petit extrait, c'est le seul que je vais lire, et je pense que ça, j'en parlais avec mon voisin qui est plus vieux que moi, qui a vécu cette période et qui me disait que ça reflétait exactement ce qu'il y avait. Albert Saint-Martin se fit durant le défenseur acharné de la classe ouvrière. Il s'est littéralement identifié à ce quartier de Montréal, situé au sud de la côte de la rue Sherbrooke et à l'est du boulevard Saint-Laurent. Nul mieux que lui, peut-être, n'en connaissait les misères et les aspirations. Il vivait là avec les cigariers aux épaules voûtées par le travail aux établis, dont les doigts brunis témoignaient de leur métier, les débardeurs avec leurs grappins de charge accrochés au dos, les chauffeurs et percepteurs de la Montreal Tramway, reconnaissables par leur casquette à l'écusson du monopole, les peintres avec leurs salopettes blanches parsemées de croûtes multicolores, les poseurs d'asphalte aux bottines enduites de bitume, les fileuses et les couturières aux petites mains agiles, au teint blafard, les ramoneurs aux vêtements noirs de suie, portant cordage et crochet à l'épaule, les typographes de la presse fiers d'appartenir depuis des générations à l'aristocratie ouvrière, les laitiers de Poupard aux voitures tirées par des vieux chevaux, les brasseurs de Molson reconnaissables à leur odeur de malt, les charpentiers menuisiers transportant leurs lourds coffres d'outils d'un chantier à l'autre, les fonctionnaires de la ville et de la province dont les habits usés trahissaient les maigres traitements, les vendeurs de glace avec leurs tabliers et leurs bottes de caoutchouc, les petits commis de la rue Sainte-Catherine vêtus de leurs plus beaux complets, les cordonniers monteurs des dizaines de petites fabriques du quartier, les maçons et bricoteurs avec leurs masses et poinçons, les barbiers fiers d'aiguiser leurs rasoirs sur de beaux cuirs épais devant leurs clients, les journaliers du Grand Trunk, les boulangers et les voituriers qui ne cessaient de livrer des marchandises, les ouvrières de la McDonald's Tobacco, les paveurs et les hommes d'entretien de la voirie. Tous ces hommes et toutes ces femmes pour gagner leur vie à la sueur de son front, c'était une dure et constante et quotidienne réalité. Il s'intéresse aux chevaliers du travail, mouvement notamment pour obtenir les 8 heures de travail. Il abandonne la foi en 93, apprend l'espéranto en 94 et il participe à la campagne du premier candidat ouvrier en 1904 et à la fondation du Parti ouvrier, dont il devient le secrétaire dès 1905. Il est lui-même candidat à une élection partielle contre le premier ministre libéral, Lomer Gouin, dans Saint-Jacques, et il obtient 13 % du vote. À l'été 1905, il fait une chose qui est assez extraordinaire. Il se rend avec sa femme et ses deux enfants et un autre sténographe au premier congrès international d'espérantistes qui se déroule à Boulogne-sur-Mer. J'ai été voir le site aujourd'hui et il y a une photo où il apparaît parmi 300 personnes. Je le reconnais, mais il est là. Il transforme aussi sa résidence en épicerie coopérative en 1906 et s'éloigne progressivement du Parti ouvrier pour se consacrer à la coopérative Esperanto, à des logements partagés, donc la vie en commun. Donc, il y a toutes sortes de pratiques qui sont assez particulières et différentes de ce que vivait la majorité des gens. Il devient l'ardent défenseur du socialisme. Progressivement, on le voit qu'il évolue vers la gauche. Donc, le Parti socialiste du Canada remplace le Parti ouvrier après une rupture avec les syndicalistes internationaux. Et Albert Saint-Martin devient candidat aux élections fédérales de 1908 en Saint-Laurent. 500 quelques votes. En 1910, la coop Esperanto achète des terres près de Mont-Laurier, c'est ce dont je vous parlais. 20 personnes vont y vivre en commune. Et ça va durer assez longtemps. À la limite, les terres vont revenir à la famille à ceux d'un procès contre ses amis après son décès, en 1947. En 1914, il y a une petite crise économique qui prend de l'ampleur avant la Première Guerre mondiale. Il y a un mouvement des chômeurs qui est lancé par Albert Saint-Martin. Il réclame des emplois et avec lui, les chômeurs se présentent à la mairie de Montréal, demandent d'emploi. Ils demandent qu'on fournisse les terres en friche. Il y a beaucoup d'endroits à Montréal, entre des rues construites, il y a des terres en friche pour en faire des jardins communautaires, pour que les gens se nourrissent. Et il appuie dans cette période-là le mouvement anticonscriptionniste en 1917. Avec la publication de Tom Anti, une brochure contre les détracteurs de la Révolution soviétique en janvier 1920, il franchit un autre pas, encore plus à gauche. Et il, même si le Parti communiste canadien, qui est fondé en mai 1921, il n'y a aucun Canadien français là-dedans. Albert Saint-Martin a réussi à affilier son groupe au Parti communiste s'appelle le Workers' Party, comme section francophone. Les relations sont variables, selon les témoins que j'ai interrogés. En 1923, il demande même une affiliation directe à la Troisième Internationale, l'Internationale communiste, comme les Écossais le faisaient aussi pour marquer leur différence des Britanniques. Mais dans les deux cas, le comité central a refusé. Il va prendre alors un peu ses distances pour ce qu'on parle de communisme libertaire. Il fonde l'Université ouvrière en 1925. Et cela va déranger beaucoup l'Église et la bourgeoisie parce qu'on faisait beaucoup de formations, de dévoilement, on faisait en sorte que les gens prennent leur distance, soient critiques à l'égard de l'Église, à l'égard de la bourgeoisie, à l'égard de l'exploitation, etc. Et il y a un premier saccage de l'Université ouvrière en 1930. Puis une dénonciation par l'archevêque de Montréal en 1931. On est, à ce moment-là, 29 est arrivé, on est en crise. La crise, j'ai été relire mon mémoire de maîtrise sur la crise, et je me suis rendu compte à quel point c'était important, ça a été progressif, mais jusqu'en 1934. Le sommet est à peu près en 1934, où on a à peu près 65 000 personnes inscrites comme chômeurs et recevant l'assistance publique. Avant ça, il y a des soupes. On pouvait servir jusqu'à 3000 repas par jour. Alors, c'est quand même important. Montréal n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est 350 000-400 000 personnes. Donc, quand il y a 65 000 chômeurs, c'est un pourcentage important. Et de toute façon, la situation des autres, il y a beaucoup de travailleurs précaires qui ont juste un travail à temps partiel, etc. Donc, ça explique à la fois, ça explique, à mon avis, à la fois la montée de la réaction fasciste, mais aussi pourquoi il devenait un bouc émissaire, parce qu'effectivement, il aidait les gens à prendre conscience de ce qui se passait. Donc, on va s'attaquer de nouveau à l'Université ouvrière en 1931. Il va y avoir une campagne dirigée par Le Devoir et les journaux catholiques contre lui en 1932. Il va publier à ce moment-là, presque de la provocation, les sandwichs à la swash, c'est-à-dire qu'il sait qu'on mettait n'importe quoi dans les sandwichs, les restes de nourriture qu'on servait aux chômeurs. Ça, c'est en décembre 32. Et là, il est accusé de libelle, à la fois blasphématoire à l'égard de l'Église et aussi de libelle séditieux. On va adopter en 1933 la loi Arc, hein, qui va interdire l'Université ouvrière. Et Albert Saint-Martin va être battu par des jeunes fascistes le 1er octobre 1933 à coups de bâton. Il va être hospitalisé et il s'en remettra pas vraiment totalement. Et il va donc ralentir beaucoup ses activités. Il est décédé en 1947. Au moment où il décède, en pelletant de la neige devant chez lui, on enlève son corps pour éviter que ses amis puissent lui faire des funérailles. Et on remet par la suite à la famille. Il sera enterré en secret. J'ai finalement trouvé sa tombe dans l'est de Montréal après un peu de recherche grâce à des amis. Voilà. Donc, je voudrais souligner le fait que nous sommes ici dans cette librairie sur la Maine. Boulevard Saint-Laurent, c'était la Maine, la rue principale. Ça disait l'est et l'ouest. Ça, c'est la rue qui va du Saint-Laurent jusqu'à la rivière des Prairies. Et c'est aussi la rue où on a des affrontements durant la période de la crise. Entre les fascistes qui se réunissent à partir de 1934 à la Casa d'Italia, qui est financée par le gouvernement italien. Et il y a même un ministre fasciste italien qui vient à Montréal en 1933 en avion, en franchissant par étapes l'Islande, ensuite l'Atlantique, et qui est reçu comme un héros par la communauté italienne. Et la communauté italienne, elle est aussi catholique, donc c'est, et d'autre part, plus bas, beaucoup de familles ouvrières, origine plus des pays de l'Europe centrale et de l'Est, là, c'est davantage là qu'on va retrouver des gens qui ont une pensée socialiste. Et c'est pour ça qu'ils éliront en 1943 un député du Parti ouvrier progressiste, c'était le nom qu'avait adopté le Parti communiste, dans Montréal-Cartier, donc plus auprès de Mont-Royal et Saint-Urbain. Député qui sera réélu d'ailleurs en 1945, qui sera arrêté en 1946 dans l'affaire Gouzenko, détenu 6 ans ici avant d'être retourné dans sa Pologne natale, Fred Rosenberg, Fred Rose. Il a été interviewé par un de mes amis, Marcel Fournier, qui a écrit sur communisme et anticommunisme 1920-1950, un livre qu'on a publié chez Saint-Martin. Voilà. Donc, cette artère sur laquelle vous êtes installé, c'est quand même une rue historique importante pour Montréal. C'est une courte présentation, mais ça résume un peu le cheminement de ce personnage. Haut en couleur, paraît-il qu'il avait le verre facile, qu'il ne se laissait pas, ne s'en laissait pas imposer par les bourgeois, même s'il travaillait avec des juges, ça n'influençait pas. Je suis à vous. Merci.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'Université ouvrière, le type de... comment l'organisation, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais...
Oui, Patrick a tenu à ce qu'on garde dans la nouvelle version l'extrait de la femme, qui est publié, parce que, effectivement, parmi les gens qui travaillaient, il y avait énormément de femmes. Il y avait 50 000 femmes. De moins, j'en parle dans mon mémoire, ce que j'ai relu pour me préparer, des 50 000 femmes de moins de 29 ans qui travaillaient, donc couturières, dans les usines de cigarettes, dominant textile, donc tout ça. Et donc, il fallait faire réfléchir les gens, les informer sur comment fonctionnait la société, les divisions de classe sociale, la pauvreté. l'alimentation. S'il a mis sur pied à plusieurs reprises des coop ou des magasins alimentaires, c'est parce qu'il y avait le souci que les gens, sachant qu'ils avaient peu de ressources financières, puissent se nourrir adéquatement. Et faire le lien aussi, on retrouve là une pensée qui existe encore aujourd'hui, entre le milieu urbain et les milieux agricoles où sont produits les... Donc, faire des liens. C'est pour ça qu'il y a la Saint-Hyacinthe, il y a Mont-Laurier, il y a un peu partout. Donc, c'était très diversifié. On enseignait aussi l'espéranto, bien sûr, l'histoire du mouvement ouvrier, le syndicalisme, un peu de tout. Mais on n'a pas de liste, on a plein de gens. Et bien sûr, maintenant, depuis qu'il y a eu cette thèse de doctorat qui a été ajoutée en termes de connaissances, nous avons beaucoup de comptes rendus de présence de policiers qui étaient là et qui prenaient des notes, participants parmi d'autres, et qui faisaient des rapports à la police provinciale du Québec et à la GRC. Donc, parfois, les archives, moi, on a refusé de me donner accès aux archives de la GRC. L'historien de la GRC m'a refusé et il m'a caché les faits alors que j'avais des documents estampillés GRC, enfin, RCMP, disons, que j'avais retrouvé. Donc, je savais qu'ils avaient saisi des documents et qu'ils avaient quelque chose sur Saint-Martin-Jésus. Mais dans la thèse de doctorat, on a pu explorer ça. Donc, c'est à peu près toutes les thématiques. Le droit de vote des femmes, c'était un enjeu important à ce moment-là qui était porté par des gens quand elle est revenue, Léa Robac, quand elle est revenue, j'ai connu Léa. J'ai connu Léo, son frère aussi, et qui enseignait.
Léa, Léo.
Ouais.
Léo.
Oui. On ne savait pas ça. Ouais.
Est-ce que M. Saint-Martin a eu des rapports, par exemple, dans le temps du Plessis, avec des gens comme Chartrain, Michel Chartrain, Madeleine Parent, Trudeau ou Cité-Libre, qui étaient des gens, là, qui étaient des
gens. Cité-Libre apparaît à un moment où Saint-Martin, a beaucoup après, 55-56.
C'est ça.
Alors que Saint-Martin est mort en 47.
Mais, je veux dire, M. Saint-Martin a connu Trudeau durant le temps de la grève
dans les années 40,
c'est ça, Saint-Martin s'est décédé. Il est décédé en 47. Ah, c'est ça, mais est-ce qu'il y avait
eu des rapports avec ces gens-là? Il a eu des rapports à peine. Avec Madeleine Parent s'en souvenait à peine. Parce que Madeleine, attendez, elle est née en 17. Et elle a commencé à être active avec Kent Crowley dans le mouvement syndical autour de ses grosses grèves, c'est 45-46. Il y a eu une période où il y a eu beaucoup de grèves en 34 et en 37. Je regardais le nombre de journées de grève par année à Montréal, mais c'était à ce moment-là des syndicats internationaux plus classiques. Même la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques, qui a alors fait des grèves dans le domaine textile, elle en a perdu aussi. Dans Beauharnois-Valleyfield, ils se font avoir par la Dominion Tax. Mais par la suite, Madeleine Parent et Ken Crowley ont, en 1946, fait une grève et là, ils ont gagné pour les travailleurs.
Michel Chartrain.
Michel. J'ai toujours parlé souvent avec lui. J'ai travaillé à l'information à CSN, comme Michel. Non, je pense que non.
C'est pas sa période.
C'est pas. Puis il n'était pas encore très actif à ce moment-là. Il vient après.
J'ai une question, puis un soupçon en même temps, je voudrais confirmer. Quand vous avez parlé des attaques fascistes là, qu'il y avait eu à l'encontre de ces ouvrières.
Ah, ils ont saccagé, ils ont brûlé les lits, puis les policiers étaient là, ils n'ont rien fait.
Puis quand je parle de soupçon, c'est que je me demande si la gang Pierre-Éliott Trudeau à cette époque-là, il était pas libéral, lui, il était. Jean-Louis Roy, là, on a su, il était devenu brièvement gouverneur général du Québec. Il était fasciste là, dans les années 30, les amis de Trudeau à l'Université de Montréal.
Oui.
On ne sait pas C'est qui avait fait ces coups pour...
Non, c'était des étudiants catholiques soutenus. Ici, je montre que le cardinal Léger organise une descente avec des étudiants. J'ai une photo des gars pour briser les locaux de
ces... On n'a jamais su l'identité de ces fascistes-là.
Okay. Et ils n'ont pas été arrêtés. Alors,
Il y avait Adrien Arcan qui était président du Parti fasciste canadien, en tout cas quelque chose dans le Nord. Hein?
Tout à fait. Un petit mot sur elle, attendez, je pense que je l'ai dit. Arcan était le fils d'un syndicaliste, imaginez. Oui. Adrien Arcan, son père Narcisse était syndicaliste, il fut candidat du Parti ouvrier dans le Montréal-Dorion en 1912 et en 1923 avec l'appui de Saint-Martin. Il fonde le Parti national social chrétien. C'est vraiment un parti très chemise brune, très fédéraliste en 1934. Et imaginez que son bras droit s'appelle Gérard Lanteau, le père de Jacques. L'histoire. Il y a souvent des renversements comme ça.
Mais c'est là que vous avez fait la révolution d'octobre en Russie.
Oui.
Et après ça, et par la suite, est-ce que l'Union soviétique avait des relations avec eux de financement ou pour les aider à mettre sur pied?
Juste pour rappeler qu'au moment où la première révolution éclate en Russie, Léon Trotsky est aux États-Unis. Léon Trotsky est aux États-Unis, est à New York. Il ne savait pas que la première, il y a eu un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition-là a demandé sa libération parce qu'il était à ce moment-là détenu à Halifax par les troupes britanniques. Il a été libéré. Il est allé faire la deuxième vague de la révolution et à ce moment-là, ils ont pris le pouvoir. Je ne sais pas s'il y avait de l'aide financière de Moscou aux différents partis. Saint-Martin a reçu l'argent. Je pense qu'il vendait des brochures, il cotisait, et les journaux qu'il publiait, il s'autofinançait comme ça. C'est peut-être à partir du moment où il a pris sa retraite comme sténographe. Je pense qu'il s'est plus intéressé à la coopérative, donc la vente d'aliments, la ferme, la Canado, que ça s'appelait, après le Mont-Laurier.
Est-ce que vous avez des... Je voulais juste vous demander, j'ai lu quelque part au hasard tantôt dans votre livre, et puis j'ai vu que Olivier Racine, journaliste, éditorialiste, fondateur du Devoir, l'avait défendu à un moment donné.
Henri Bourassin, fondateur du Devoir.
Oui, il était le premier éditorialiste, je pense, à Racine. Est-ce qu'il l'a défendu?
Même Henri Bourassa, même s'il était au Devoir, a fait en sorte que quand il y avait des questions ouvrières importantes, il prenait position avec Verville, le député ouvrier qui avait été élu dans les années 1912-1913, je ne sais plus la date exacte. Il y avait des coalitions qui se faisaient inter-partis, si on veut. Mais il reste que, non, le Devoir a toujours été assez proche par la suite de l'archevêché. Et c'est juste quand il y a eu le mouvement de déconfessionnalisation, même à l'action dans la JSC, JOC, et à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui est devenue la CSN. Il y a eu à un moment donné une réflexion parce que la lutte et les conflits importants comme le conflit de la viande, 49, Murdochville, les métallos, il y a eu une évolution des syndicats dans ces années-là. Je peux vous raconter une petite anecdote comme ça. D'ailleurs, la première personne qui m'a parlé d'Albert Saint-Martin, c'était pas positif. C'est, j'étais au service d'information de la CSN à l'été 68, et Marcel Pépin descend, on était au 6e, il était au 7e, il descend voir, puis il me dit, Claude, pourrais-tu nous faire un petit une petite entrevue avec un ancien président de la CSN, Alfred Charpentier. Je ne veux pas qu'on mette trop l'accent sur l'aspect de la critique sociale de l'Église et tout ça, mais plus sur la création du Conseil supérieur du travail, puis c'est lui qui a amené la médiation et la conciliation dans les faits. Fait que, il faut que tu fasses vite parce qu'il a 80 ans, puis il est en train d'écrire ses mémoires, mais il en perd un peu. Fait que j'appelle Alfred Charpentier. Alfred Charpentier était maçon de métier. Il a commencé comme maçon en 1905, pour se situer là. Ensuite, il est devenu président de l'Union internationale des bricoteurs. Bricoteurs, maçons, c'est ensemble. Et donc, il est devenu automatiquement membre du Conseil des métiers du travail de Montréal, qui était le regroupement des syndicats internationaux, comme on les appelait. Et là, au Conseil des métiers, Saint-Martin venait faire des représentations pour le Parti ouvrier. Et donc, Alfred Charpentier se souvenait d'Albert Saint-Martin en disant c'était un agitateur, il dérangeait. Il se souvenait de l'avoir entendu parler, haranguer les chômeurs en 1914 derrière l'hôtel de ville sur le champ de Mars. Alors, la première fois que j'entends parler de Saint-Martin, c'était pas. Et là, je parle plus tard, je parle avec un ami de mon père, Henri Gagnon, qui. Il est un électricien qui a été fondateur d'une section du Parti communiste des années 30, puis qui a connu aussi Saint-Martin, mais à la fin, à toute fin, le moment où il avait l'université ouvrière. Lui, il me disait au contraire que c'était un éveilleur de conscience. Donc, vous voyez, deux échos que j'ai eu comme ça. J'ai jamais parlé de ça dans le livre parce que c'est trop anecdotique. C'est pas.
Est-ce que c'est cette contradiction apparente qu'ils avaient poussé à aller pour écrire la livre?
Non, je pense que j'ai investi une dizaine d'années dans la recherche sur le milieu ouvrier, tout ça. J'étais en travail social, je faisais de l'animation sociale dans le quartier. Donc, je voulais comprendre comment s'était structurée cette société dans laquelle j'intervenais et les enjeux, les luttes. Puis quand j'ai fondé Saint-Martin, j'étais appuyé par des gens comme Raymond Boyer. Raymond était quand même interné lui aussi dans l'affaire Bouzenko. Il était envoyé au pénitencier pendant 2 ans. Raymond est un grand bourgeois, Raymond, parce que sa famille, c'est les Forgette. Le manoir Forgette, c'est le cousin de Thérèse Casgrain, qui est devenue sénatrice, qui était une des femmes qui défendait avec Léa Verbach le droit de vote. Raymond a été faire son doctorat en chimie en Allemagne, parce que les Allemands étaient à l'avant-garde de la chimie entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il a vu monter le fascisme, le nazisme allemand. Évidemment, il s'est réfugié d'abord à Paris, puis ensuite il est revenu enseigner à McGill en chimie. Il travaillait sur le détonateur de la bombe atomique, puisque c'était un spécialiste des explosifs. Et Raymond est décédé maintenant, bien sûr. Mais, donc, il connaissait Madeleine Parent et tout ça, et plein d'autres gens. Quand il a été incarcéré en 1946, il a été condamné à 2 ans de pénitencier. Il a repris une nouvelle carrière en sortant. Il a étudié la criminologie. Il a écrit sur crimes et châtiments en Nouvelle-France. Donc, il s'est intéressé à la fin de l'esclavage. C'est étonnant, hein, la vie des gens. J'étais dans le taxi, j'ai été pris 45 minutes dans le métro, il y avait une panne, j'ai sauté dans un taxi pour arriver à l'heure, puis je suis passé devant sa maison, sur la rue Sherbrooke, tout près de Pille, une magnifique maison de la famille Portrette. Et il y avait un manoir dans le West Island. C'était quelqu'un de très engagé et avec qui je ne l'ai pas amené, mais avec qui on a travaillé après le coup d'État contre Allende. Il y avait des Chiliens réfugiés ici, donc avec Raymond, sa conjointe, et moi, on a fait des entrevues, on a traduit des entrevues, on a fait la vie quotidienne sous Allende, et c'est Madame Allende qui a fait la préface de ce livre. Très simple, les entrevues. C'est très simple. Donc, j'ai été au centre de plein de choses. Dans la vie. Et j'achève. Je vous raconterai pas toute l'autre partie de ma vie comme travailleur social. Il y a un livre qui vient de sortir où on est une quinzaine de travailleurs sociaux interviewés sur nos trajectoires. Il y a des gens très connus comme Pauline Marois et évidemment David, Hélène,
Françoise,
qui est, et sa sœur, qui a fait ma maîtrise.
Est-ce que vous, comme vous avez beaucoup travaillé sur Albert Saint-Martin, dans toutes les ramifications de ses diverses activités, est-ce que l'impact de ce côté éveilleur de conscience sur les gens, sur le mouvement des sans-travail, sur les chômeurs, à travers les milices populaires, est-ce que c'est quelque chose qui a eu véritablement une importance réelle? Parce que, non, personne ne connaît plus Saint-Martin.
Oui, il y a eu comme un étouffement, si je puis dire, de la mémoire collective. Les gens qui ont vécu ça ne sont plus là à un moment donné ou abandonnent. C'est sûr que le duplessisme, on a un intervalle là, des années 30, donc au moment de la grande crise, jusqu'à la Révolution tranquille. Il y a une période d'étouffement des connaissances et des consciences, je dirais. Toujours une résistance qui existe, syndicale, moins politique, plus syndicale. J'ai discuté de ça avec, je pense, un socialiste qui est décédé à Flatsbuc, fils de grande famille, sa famille avait fondé la pulperie à Chicoutimi, mais évidemment, il n'était pas de taille à se mesurer avec les grandes sociétés qui s'installaient. Donc, il a été obligé de vendre à Price. Mais Alfred a toujours été quelqu'un, il était aussi proche du communisme. Et c'était un économiste, Alfred Vu. Il m'a enseigné l'économie quand je suis arrivé à l'université. Et pour lui, il est clair qu'il y a eu une période importante où il n'y avait plus grand-chose. Éventuellement, une nouvelle génération, parti pris, la revue socialiste, ça c'est des choses qui ont commencé à remuer, à faire sortir plus l'histoire et le mouvement syndical qui reste quand même un bâtiment.
J'avais une question éditoriale. Je me demande, parce que je suis tombé sur des ouvrages des éditions coopératives à Saint-Martin, parce qu'avec des collègues, on travaille sur un projet sur les abolitionnismes pénal, carcéral,
oui. Politique. On a publié un ouvrage, oui, dont j'ai fait
absolument.
Avec les envoyés.
C'est ça, je me demandais si M. Boyer avait. Parce que vous avez là-dedans publié le manifeste des gars d'Archambault, de la révolte de la prison d'Archambault. Le texte est magnifique. Là.
Les pénitentiaires, le système à abattre.
C'est ça. Ouais. Ouais, c'est un tellement. Le format, tout ça, c'est bien fait.
Ouais. Une pièce de théâtre là-dessus aussi. Sur les gars
d'Archambault. Oui, il y a eu une pièce, je me souviens pas des détails de ça.
J'ai fait une entrevue avec toi.
Mais vous aviez une maison d'édition coopérative, c'est ça?
Oui, alors j'ai fondé les éditions coopératives Albert Saint-Martin avec le journaliste Louis Fournier, Marcel Fournier, le collègue sociologue. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais Raymond Voilier, c'est sûr. Et d'autres personnes. C'était l'idée de faire une maison d'édition qui permette aux universitaires d'être en contact avec monsieur, madame, tout le monde, donc des échanges. Mm-hmm. On a publié beaucoup de textes de médecine et société, Marc Renaud, qui a été mon co-directeur de thèse de doctorat sur les enjeux de la santé, sociale, épidémiologie. J'ai pas amené de catalogue de l'époque. J'ai été actif à Saint-Martin jusqu'en 82. Après ça, il y a eu un petit coup d'État et les gens ont pris le contrôle et ont privatisé, ont mis fin à la coopérative et ont privatisé.
Puis quand vous dites coopérative, ça avait quelles implications dans la structure de la maison, mettons?
Bien, on payait une cotisation initiale de 5 $ pour être membre.
OK.
Et on souscrivait souvent. On avait un système de financement où on avait des parts sociales de 100 $ pour financer la maison. On avait ramassé le capital pour. Ensuite, on a eu droit à. Je parlais de Pauline Marois, mais j'ai bien connu Claude Blanchet, son conjoint, qui était à la Société de développement des coopératives. Donc, j'ai pu obtenir une entrée à la Caisse centrale des Jardins pour avoir du financement.
Ouais.
Puis avec plus la subvention du Conseil des arts du Canada, on recevait parce qu'on publiait. Donc on arrivait à faire fonctionner. On avait un permanent.
OK.
Mais on faisait beaucoup de travail bénévole. Et mon père, à sa retraite, était le distributeur. Il partait avec sa voiture, puis les caisses de livres, puis il faisait. J'en faisais un peu aussi. Je me souviens que quand j'allais à l'Agence du livre français, quand j'ai déménagé à Outremont, Mme Ferretti m'appelait M. Saint-Martin.
Okay.
On faisait les salons du livre et on avait choisi, on avait beaucoup de publications qui étaient, je pense que ça c'était 1 $ ou 25 sous, des prix qui étaient très accessibles.
Okay.
C'était une volonté.
Puis les gens qui collaboraient à votre catalogue, c'était des gens qui étaient membres de la coopérative ou c'était des universitaires à l'extérieur de la coopérative?
Il y avait, il y avait des membres de la coopérative, il y avait un comité politique pour discuter des manuscrits qui nous étaient soumis, les canons publierait.
OK.
J'ai encore un peu d'archives de ça. Je pense que je vais déposer bientôt aux archives.
Très cool.
Nationales du Québec.
Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la période de Duplessis, c'était la période de la grande noirceur, ou si ça n'a pas été plutôt, comme il y a une controverse, là, ça n'a pas plutôt été une période de très intense industrialisation?
La grande industrie était déjà présente sous les libéraux antérieurement. On a publié d'ailleurs chez la coopérative. Une nouvelle édition du Petit Catéchisme du directeur que j'ai fait une introduction pour situer les choses, mais la grande entreprise était très, très présente. J'ai fait l'analyse dans mon mémoire de maîtrise au Québec. Oui, Tachereau, et même avant ça, même Lomère-Gouin. Et les grandes sociétés finançaient les partis politiques. C'était.
Indistinct, du Pérou autant qu'ils ont la fin.
Selon les Oui, effectivement. Ça finit par des scandales de gaz naturel.
Oui, c'est ça.
57-59. Mais dans les faits, quand on regarde le vote populaire, dès 56, les libéraux recevaient plus de votes populaires que l'Union nationale, sauf que l'Union nationale était dans le milieu rural, plus de comtés, et les libéraux étaient centrés plus à Montréal, comme ils le sont encore.
Et la grande noirceur?
Ben, c'est clair que, moi, je pense à Marcel Rigaud qui me racontait qu'il avait dû se réfugier à Ottawa parce qu'on ne voulait pas l'engager. C'était vraiment le contrôle sur les milieux académiques, les universités, sur les écrits, sur tout.
Trudeau a eu la même chose, il a dû quitter pour, là, parce qu'il ne pouvait pas se faire engager à l'université.
C'est possible, mais je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Il était en droit.
Il était en droit.
Oui, c'est ça. Oui.
Avez-vous plus d'informations sur, ou pourriez-vous élaborer un petit peu plus sur l'importance de l'espéranto? Vous l'avez mentionné à quelques reprises, puis en tout cas, ça pique ma curiosité à savoir pourquoi c'était si présent, puis quel rôle ça pouvait avoir.
Bien, ça permettait, écoutez, Montréal, là, c'était multiethnique dans certains quartiers, puis ces gens-là ne pouvaient pas se parler, donc l'espéranto permettait des échanges. Et ça, je pense que ça a été important. Ça permettait à Saint-Martin, on a beau parler français en anglais, mais à un moment donné, il y a des gens avec qui il faut parler dans une autre langue. Donc, ça lui a permis de communiquer. Je pense que c'était ça le projet espérantiste. En même temps, ça a des limites parce que c'est pas tout le monde qui. J'ai des textes qui ont été traduits en espéranto. J'ai découvert ça par hasard. Ils sont intéressés à ce que j'avais écrit, donc ils en ont traduit.
Est-ce que Montréal est un endroit important pour l'espéranto dans le monde? Est-ce que vous savez ça?
Non, ça, il faudrait demander à des historiens de ce mouvement-là. Mais il y a quand même animé longtemps la formation, la Canado, tout ça. Je pense qu'il faisait ça. Est-ce qu'il y avait.
C'est en espéranto.
Ouais, c'est ça.
Non, je crois que c'est ma conjointe. Oui, bonsoir. Oui, c'est bon. Presque fini. L'adresse exacte, 6792.
6792, c'est un.
D'accord. Ben, c'est ma conjointe qui m'a dit. C'est un cas de son petit vieux. Alors, c'est ça, je pense que.
Moi, je trouve juste que j'ai amené les deux copies de la revue, enfin, la première page de la revue de Saint-Martin. Je voulais regarder, parce que c'est une pièce de livre. Difficile à trouver.
C'est la même.
Il y a quand même un certain nombre de publications qu'on a trouve à la bibliothèque municipale.
Vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'avoir les textes de la GRC.
Oui.
Mais là, maintenant, les archives procureurs du Québec ont été versées à l'Union fédérale. Et moi, il n'y a pas tout. Hein. Celles de la GRC fédérale, on n'a certainement pas. Mais par contre, celles de la province, on peut y avoir accès.
Bon. Bien.
En état, je pense qu'ils appliquaient la règle des 50 ans.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'ils m'ont refusé.
C'est impressionnant parce qu'on voit. En fait, il y avait une sténo d'Aquilo qui était dans les manifestations, dans les.
Ils prenaient tout, assemblées.
Toutes les assemblées, ils prenaient tout. Donc, ça fait quand même
ça fait peur. Oui, mais on n'a pas parlé beaucoup de répression, mais il y en a eu. Il y a eu 25 000 citoyens canadiens d'origine étrangère qui ont été déportés durant la grande crise.
C'est
dans les pays d'Europe. Donc, il y a eu des de la répression. Écoutez, je dois partir.